Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama.
En RDC, les mineurs et jeunes filles victimes des viols sont parfois abandonnés à leur triste sort. Pas des poursuites judiciaires pour les auteurs, pas d'encadrement psychologique, etc. Dans certaines familles, on essaye de trouver une solution à l'amiable, et pourtant, la population est encouragée à dénoncer tous les cas des viols commis sur mineurs, sur les jeunes filles et les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer un meilleur encadrement des victimes des violences sexuelles? On en parle dans cette émission de La Vie au quotidien avec Madame Pascaline Zamouda Mukanda. Elle est présidente de l'ONG Cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement des jeunes, CREIJE en sigle. Madame Pascaline, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, nous parlons aujourd'hui des victimes des violences sexuelles qui sont abandonnées à leur triste sort. Est-ce que vous confirmez cela et pourquoi?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr, et c'est dramatique, c'est très dommage, parce que c'est une chose que nous on pensait, ou moi personnellement je pensais que tout le monde devait être alarmé de la situation,
oui.
Mais le constat est vraiment amer, parce que de plus en plus il y a des cas de viol sur mineurs, et souvent fait par des adultes, souvent fait dans les contextes familiales, ou dans le contexte de la communauté. Là, c'est pour faire la différence avec les viols dans le contexte des guerres. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. On pensait bien sûr
malgré
que...
Malgré que la loi a été renforcée
malheureusement,
sur les violences sexuelles.
Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je le dis, c'est très alarmant, c'est très inquiétant d'ailleurs. Parce qu'on ne cesse de compter le nombre, et malheureusement, ceux qui prennent ce courage, c'est souvent des cas qui sont très compliqués, ça veut dire des cas de grossesse, des cas de complications de maladies. La famille a le courage de dénoncer. Mais dans la plupart des cas, c'est soit les enfants qui ne savent pas dénoncer, soit les familles qui ne savent pas dénoncer. Et donc, on est comme ça dans cette situation déplorable.
Et pourtant, à l'époque, on disait qu'il y avait plus de cas de viol dans les contextes des guerres, parce qu'en cas de guerre, des conflits armés, c'est là où les femmes étaient beaucoup plus violées.
Oui, moi je pense que c'est qui... Il y avait toute la clameur, effectivement, quand on parle dans le contexte de guerre, parce que là, on utilise des viols comme une tactique de guerre. Et on peut compter des noms parce que ça s'est passé pendant qu'il y a des attaques dans les villages.
Oui.
Mais dans la vie de tous les jours, effectivement...
Même si là où il n'y a pas guerre,
bien
il y a
sûr,
toujours
ici à Kinshasa, il
n'y
a pas guerre, mais je peux vous compter des nombres des cas de viols des mineurs. Pour les majeurs, je n'en parle même pas. Et c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, donc le problème est là, il est entier.
Et ces viols des mineurs arrivent dans quel contexte généralement? En famille, comment ça se passe?
Oui, vous allez voir que c'est un frère, un oncle qui vit dans la famille, qui partage le même toit et qui en profite. Ça peut être un voisin, par exemple, ça peut être à l'école, ça peut être à l'église, à l'écodim, des situations comme ça nous est reportée.
Mmh.
Et pour la plupart des cas, comme je l'ai dit, les enfants ne savent pas les dénoncer, ou bien les familles peuvent avoir des soupçons ou peuvent être effectivement au courant des faits, mais ils n'arrivent pas à dénoncer. Et il y a un autre aspect peut-être qu'on peut évoquer ici, ça veut dire l'environnement immédiat, l'environnement socio-culturel, économique, joue un rôle très majeur, parce que pour la plupart des cas aussi, vous allez constater que c'est une famille qui vit dans une certaine promiscuité, dans une certaine vulnérabilité économique, où par exemple les papas et la maman ne passent pas souvent les temps avec les enfants. Mmh. Les enfants passent toute la journée presque seuls ou dehors, où ils ont une très forte, ils sont exposés à une influence extérieure, et donc ça donne vraiment ça prête le flanc effectivement à tous ces gens qui sont très mal intentionnés et qui abusent des enfants.
Vous avez d'ailleurs des cas que vous êtes en train de suivre actuellement. Pouvez-vous nous en parler?
Bien sûr, on a trois cas là nous sommes mis sous un consortium, parce qu'on s'est dit on en a suivi. Il y a eu la fille qui a été violée, je crois, la fille qui étudie à l'école Révérend Kim, si je ne m'abuse.
Mm.
Ça a fait un tollé sur le média.
Bien sûr.
Après, ça n'a pas traîné. On a continué à voir d'autres cas. Et là, les cas qui nous a beaucoup alarmés, c'était les cas de la jeune fille qui a 13 ans, qui a été violée par un homme de 63 ans, qui est militaire. Et au moment même qu'on suivait la fille, on est même sur le dossier, parce que hier c'était la première audience à la prison de Ndolo, parce que le violeur est militaire. Et on a
une fille de 13 ans.
De 13 ans, qui a été violée et rendue grosse, en fait, par le fait du viol. Et ce n'était pas la première fois. Elle a été violée par le même homme plusieurs fois, mais c'est quand elle a eu ses règles, effectivement, que la grossesse n'était qu'une conséquence. Mais l'homme continuait à abuser de la fille. Et donc, c'est parmi les cas les plus récents. Et l'autre cas, même, la fille a 14 ans, elle a été abusée depuis ses 8 ans. Par un colonel aussi. Et l'autre cas, c'est...
Depuis l'âge de 8 ans.
Depuis l'âge de 8 ans. Et c'est quand la fille est tombée malade et la famille a fait arrêter les violeurs. Mais le violeur a été relaxé. Donc, maintenant qu'on parle, ce violeur, il est libre. La famille ne s'est pas fait de suivi, parce qu'il y a toute cette question aussi des suivis judiciaires, comme vous avez dit. Il y a les frais à payer, parce que les familles sont pour la plupart démunies. Ils ne savent pas supporter les charges au niveau de la justice.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour assurer un meilleur encadrement de toutes ces victimes des violences sexuelles?
Oui, moi je pense qu'il faut qu'on prenne d'abord cette question au sérieux, parce qu'il me semble qu'on est en train de la banaliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'ONG internationales. Je sais, à un moment donné, ça vient de projets, ça répare, ça s'interrompt, mais vu l'ampleur de la question, il nous faut des mécanismes assez efficaces, d'abord pour aider les filles, pour les amener à comprendre ce qu'est le viol et à les dénoncer. Il y a plusieurs comportements dans la société que ces enfants-là ignorent, pour savoir que c'est ce comportement qui les conduit effectivement à tomber dans les pièges du viol.
Donc il faut beaucoup plus sensibiliser les mineurs.
Bien sûr, les amener à savoir quels sont les comportements qui les exposent effectivement à ces viols dans les chefs du violeur, pas par rapport aux filles, mais parce qu'on sait souvent, on les trompe, on leur fait peur, on les menace, on leur donne des bonbons, on les trompe un peu dans ces sens-là. On profite d'une certaine situation pour commettre les forfaits.
Mais comment vous comptez les sensibiliser? Par quels moyens? Par quels mécanismes?
On est en train de penser d'abord comme un consortium, comme je vous disais. Maintenant, on est trois organisations, on s'est mis ensemble. Il y a Afiamama, il y a Créj Aïsbel, et puis il y a l'ONG Ma Voisine. Ma Voisine, c'est une ONG créée par Emmanuela Zandi, qui elle-même, elle est survivante du viol. Elle a été violée à ses 6 ans au Nord Kivu. Maintenant, elle est installée ici. Et d'ailleurs, c'est elle qui a été contactée pour la première fois pour ce qui concerne les cas de la fille de 13 ans. Et donc, nous sommes en train de réfléchir à des projets d'une certaine envergure au niveau communautaire. Ces mécanismes-là doivent être communautaires, parce qu'on a vu que des projets qui sont mis en place, vu que ce sont des projets qui sont limités dans le temps, et dans l'espace d'ailleurs, ce sont des projets qui s'arrêtent à un moment. Parfois, l'information n'arrive même pas aux victimes. Et donc, nous, on se sent vraiment préoccupés. Et on voudrait, et on a fait des démarches vers les ONG internationales, leur proposer à ce que nos ONG jouent le rôle de pont pour identifier ces victimes et voir quelle est l'assistance que ces ONG peuvent mettre à la disposition de ces filles. Parce qu'on pense que si, effectivement, il y a des bons canaux qui vont susciter à ce que les victimes puissent dénoncer, on va en avoir des milliers de cas. Et c'est, encore une fois, très déplorable.
Parce que souvent, le grand problème, c'est le silence.
Absolument.
Il faut arriver à briser le silence.
Absolument.
Oui. Alors, à part la sensibilisation, qu'est-ce qui doit être fait, par exemple, pour les cas des poursuites judiciaires? Les parents sont démunis, n'ont pas assez de moyens, voilà. L'enfant a été violé par quelqu'un qui a assez de moyens ou un gros boinard, voilà.
Comment qui n'en a pas aussi. Par exemple, dans les cas de la fille de 13 ans, les militaires, ils n'ont pas aussi de moyens. Donc là, l'avocat est en train de penser, on va demander des dommages d'intérêt, mais qui va le prendre en charge? On pensait même faire un plaidoyer pour que l'État puisse prendre en charge, l'État puisse se prendre pour responsable des dommages à intérêt quand il s'agit des cas de viol par les militaires, par exemple, même s'ils sont pas, ils n'ont pas commis le viol en fonction. Donc, vous voyez que la prise en charge sera holistique. On va aller au-delà vraiment de ce qui est dit même par la loi, parce que on sait que la justice peut faire son travail. On va arrêter les violeurs encore une fois. Il faut savoir s'il va vraiment purger sa peine. Parce que pour la plupart, s'il n'y a pas de suivi, après on va relaxer, on va trouver que les violeurs se retrouvent encore dans la communauté. La prise en charge doit être aussi psychologique, parce que vous voyez, à cet âge, les mineurs qui subissent du viol, c'est toute la famille qui est affectée. Je peux vous dire, pour les cas de la fille de 13 ans, et là, il y a des problèmes avec sa sœur qui, parfois, l'incriminait, disait que non, tu es responsable du viol. Donc, la fille, elle est affectée aussi. Les parents sont affectés. Donc, il faut vraiment cette prise en charge. Et au-delà de la prise en charge psychosociale, il faut vraiment la réinsertion économique. Pour la plupart des cas, quand ce sont des mineurs, nous, on conseille à ce que les filles reprennent la voie de l'école. Parce qu'elles sont encore mineures, donc on peut leur accorder...
Par exemple, celle qui est déjà grosse, il faut attendre
Elle étudie parce que on a obtenu à ce qu'elle continue, mais il y a beaucoup de questions qu'on se pose vu sa santé qui est fragile. Jusqu'à quand elle peut tenir? Et donc on est en train de voir, peut-être qu'elle va accoucher d'abord et puis elle va répondre. Mais la question de la prise en charge va se poser après. Est-ce que les parents seront toujours en mesure de lui payer parce que ses parents déjà n'ont pas suffisamment de moyens, une famille militaire? Et donc tout ça, c'est la question de la réinsertion, de la prise en charge socio-économique qui se pose aussi.
Alors, par rapport à l'accompagnement, par rapport aux aspects judiciaires, la loi a été renforcée. Comment se fait-il qu'il y a des cas de viol et on n'arrive pas tout de suite à saisir les cas et à sanctionner?
Ouais. Je suis tout à fait scandalisée même par rapport à cette prise en charge judiciaire, parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a même pas la sensibilité. On peine parce qu'on s'est convenu de lancer un appel de fonds pour voir s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent nous assister pour la procédure. Et donc, tous ces magistrats, les militaires, ils s'en fichent de savoir que c'est un cas de viol d'une mineure. Et non, tout ce qu'ils peuvent, ils nous disent, non, il faut payer pour que nous puissions nous saisir du dossier. Donc, vous vous rendez compte même à ce niveau-là, il y a ces problèmes de prise de conscience que c'est un danger, c'est un mal que pour lequel nous devons tous nous impliquer. Donc, c'est pour vous dire que la loi peut être là, mais si ceux qui interprètent la loi, ceux qui sont censés appliquer la loi, ceux qui sont censés même combattre.
Il y a des avocats qui offrent les services gratuitement, il y a des...
Bien sûr, même c'est lui. Oui, le cabinet Chris Chemassi, c'est lui l'avocat vraiment pour ces dossiers, il y en a. Mais bon, il peut le dire, il va le faire. Il est disponible parce qu'il ne va pas avoir ses honoraires. Mais les frais de justice que nous devons payer pour les différentes procédures, là, ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas le payer. Il faut le payer.
Il faut le payer. Ouais. Comment assurer un meilleur encadrement des victimes des violences sexuelles? On en parle dans cette émission de La Vie au quotidien avec Mme Pascaline Zamouda. Elle est présidente de l'ONG Cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement des jeunes. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Autonomisation, violence basée sur le genre, la vie en famille, les valeurs familiales et toutes les questions liées au développement de l'homme et de la femme, c'est dans Parité et Famille. Votre émission vous apprend également comment vivre une vie harmonieuse en famille et vous propose des astuces pour gérer les problèmes des couples, relever les défis de l'éducation des enfants et le bien-être familial. Parité et Famille, votre émission qui traite des rapports hommes et femmes dans la société. Tous les mercredis à partir de 9h15 et 20h30, aussi le vendredi à 13h30.
Comment mieux encadrer les victimes de violences sexuelles? On en parle dans Okapi Service. Jonas Kabinda nous appelle des Kananga, Malunga est à Bandunduville. On commence avec vous, Jonas Kabinda, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à madame l'invitée. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Quelle est votre préoccupation?
Merci, monsieur Jody. Les problèmes relatifs à l'encadrement des femmes victimes de violences sexuelles se posent encore avec beaucoup d'équité, même chez nous au Kassai Central. À ma connaissance, il y a seulement une ONG de madame Kambala, Nathalie. Et l'ONG, c'est femmes mains dans la main pour le développement du travail. Alors, si ce n'est pas elle qui fait beaucoup, qui essaie de plaider la cause des femmes violées, alors c'est silence radio. Je ne fais pas sa plaidoirie, mais nous l'encourageons parce qu'elle fait un travail quand même. Mais ce qui fait mal, c'est que nous sommes en train de nous rendre compte qu'elle n'a pas d'accompagnement. Et ce qui fait encore mal aussi, c'est qu'il y a, quand une femme est violée, lorsque le problème est à la justice, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteurs dans l'appareil judiciaire. Beaucoup de lenteurs pour déterminer la cause ou l'essor, j'allais dire, l'essor du coupable. Et à telle enseigne que cette lenteur peut aussi occasionner l'évasion des prévenus violeurs. Alors, pour mieux encadrer ces femmes, moi j'avais cette pensée, c'est dit. Vous vous rendez compte que dès qu'une femme est violée, elle se sent déjà marginalisée. Elle n'a plus de considération dans la société. Elle devient l'objet d'indexer de temps en temps. Alors, pour mieux l'encadrer, si c'est une femme déjà mariée, moi j'avais pensé qu'il faut qu'il y ait aussi des services de psychologie à côté des saisons gelées. Il faut qu'il y ait quand même des psychologues. Et surtout que la
population
se rend compte que quand la femme est violée, elle n'est pas devenue l'objet qu'il faut émerger la société.
D'accord, merci Jonas. Merci Jonas. Donc,
je termine de dire que c'est une préoccupation.
Oui.
Parmi les mécanismes de résolution pacifique des conflits, il y a aussi la négociation à l'amiable. Je demande alors à Madame Lévité, pourquoi quand une fille est violée, on ne préfère pas négocier à l'amiable, on souhaite que les victimes, les coupables soient arrêtés.
D'accord. Merci Jonas Kabinda Malonga. Vous êtes à Bandundu-Ville et Joseph Mpungu nous appelle de Kindu. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Jody et bonjour à notre invité, à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question?
Bon, Jody, pardon d'abord. Vous pouvez me souhaiter une bonne fête.
De quelle fête il s'agit, Malonga?
Bon, ici, nous avons vraiment notre festivité de cinquantenaire de notre ville Bandundu.
Ah bon?
Nous sommes à l'aéroport d'abord, ici, nous sommes en train d'attendre les autorités qui viennent nous assister pour cette fête.
Ah ok, d'accord, ça c'est une très bonne nouvelle, les cinquantenaires de la ville de Bandundu. Bonne fête Malonga et bonne fête à tous les auditeurs qui nous écoutent dans le Bandundu. Alors, quelle est votre question par rapport aux violences sexuelles?
Ok, concernant notre thématique d'aujourd'hui, moi je vois que c'est le ministère de la Justice, et le ministère des Genres, Femmes et Familles, et aussi ce ministère que le président a augmenté les indicateurs. Ce sont aussi des groupes de surveillance énergie pour organiser, de créer une structure qui va s'en charger de ces femmes-là violées. Alors, s'il y a une structure, s'il vous plaît, bien structurée, en tout cas, ces femmes-là peuvent avoir une chance d'être encadrées. Vous, notre docteur est là, de Bukavu. Qui encore là?
Docteur Mukwege.
Ok, il nous a bien défendu. Par son lui-même, il a fait ce qu'il a fait et aujourd'hui, il est vraiment reconnu mondialement. Alors, si ce ministère-là travaille en synergie pour organiser ça, en tout cas, ces femmes-là peuvent avoir une chance d'être bien encadrées. Et je crois que ça sera une bonne chose dans notre pays.
Merci Malonga de Bandundu-Ville. On va donner la parole à Joseph Mpungu de Kindu. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jossi, bonjour à Madame l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix. Moi j'ai trois préoccupations à demander à Madame l'invité.
Lesquelles?
D'abord, la différence qui existe entre l'harcèlement sexuel et la violence sexuelle. Deuxième problème, j'aimerais d'abord demander la date de fondation de violence sexuelle. Parce qu'à l'époque de nos ancêtres, on s'est marié à l'âge de 12 ans, si des familles se convertissaient, d'accord, là on fait le mariage. Alors à cette époque-là, il n'y avait plus de problèmes de violence sexuelle. Troisième préoccupation, j'aimerais demander la catégorie de ceux qui sont violés. Est-ce qu'il n'y a pas pour les filles, alors qu'il y a des garçons aussi qui sont violés par des grandes mamans, où je vois dans un village, il y avait une maman qui faisait le restaurant. Cette maman faisait quoi? À 12 ou 13 heures, si elle fait un peu de sentiment, elle commence à attirer même des petits garçons à 12 ou 13 ans pour les fermer dans une maison et ils donnent à manger à ces garçons-là pour coucher avec elle. Cela ne peut aussi endommager ou amener des problèmes dans ces garçons-là qui sont aussi violents comme vous. Comme ils sont des garçons, ils n'ont pas vraiment de poursuites, il n'y a pas de poursuites, mais s'il s'agissait de filles, qu'est-ce qu'on pourrait maintenant dire?
Merci.
Je vais demander à Madame l'invité de me donner d'abord l'éclairage concernant les problèmes de violence sexuelle.
D'accord, merci Joseph. On a bien compris. Oui, d'accord, on a compris vos préoccupations. On va donner la parole à Gentil Lumanu de Kananga. Bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste, bonjour aussi à notre invité du jour.
Quelle est votre question, Gentil Lumanu?
Merci de m'avoir accordé la parole. Ça fait belle regrette que je n'ai pas participé dans cette belle émission qui est une partage d'idées pour améliorer et approfondir la vie sociale de la population.
Oui, quelle est la question là?
Merci. Par rapport à notre thème du jour, vous avez parlé d'une violence sexuelle. Dans la justice, une violence sexuelle, c'est un acte punissable. Pourquoi? Parce que, selon la Constitution, dès que un monsieur même de 45 ans, il prend un petit de 10 ans, 12 ans, c'est un acte punissable que ce boulot-là, il revient dans le roman, il tourne, non? on ne fait pas. Mais
gentil, d'accord, c'est un acte punissable. Alors, quelle est la question que vous adressez directement à l'invité?
Bon, moi, je parle de la justice.
Mm-hmm.
Je parle de la justice, je pose la question à notre invité.
Oui.
Si vous vous retrouvez dans un cas où la violence sexuelle a été favorisée par la famille de ces victimes-là, alors que la justice couvre ça selon sa pensée, vous partez en profondeur, vous trouvez que non, du côté civil, quelle sera la réponse? Merci de m'avoir accordé la parole.
Bien, merci. Chodra Kapso, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Joli Daniel Kachama. Bonjour à Madame Pascaline Zamunda Mukanda. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Quelle est votre question, Chadrak?
Oui, moi, au même l'avis, j'ai pas de questions en soi, mais je voulais ajouter par rapport à ce que l'invité vient de dire. Moi, je suis à mon humble avis, n'est-ce pas, Madame Pascaline, peut plaider pour la gratuité de la justice dans le secteur de viol. Si peut-être c'est une solution. Et aussi, je voulais demander à Madame Pascaline, parce que à l'entendre parler, elle se pense beaucoup plus, elle défend plus les victimes. Mais néanmoins, n'est-ce pas, il faut aussi conscientiser les victimes. Parce que parfois, nous remarquons, il y a une maman là d'en face, elle a ses enfants. Mais vous remarquerez l'habillement en soi, vous voyez que non, ce sont plus les filles qui s'exposent. Alors, quels sont les mécanismes qu'ils proposent en termes de sensibiliser un peu les victimes pour ne pas s'exposer à ce genre de habits? Voilà un peu ma contribution, M. Jody. Je vous remercie.
Bien, merci Chadrak. Madame Pascaline.
Oui, c'est beaucoup de questions, mais je n'ai pas noté, je crois que tu vas à chaque fois
d'accord.
Me rappeler. Je commence par la dernière question d'ailleurs, mais mm-hmm. Chadrak. Mm-hmm. Je voulais juste peut-être lui retourner une question pour dire si lui, il voyait sa fille ou sa petite fille mal habillée, il va violer cette petite fille ou bien il va lui dire de bien s'habiller. Donc c'est juste pour lui dire que cet argument-là d'habillement n'a jamais tenu. Parce que dans tous les contextes, même à l'Est, comme on a dit, où on a enregistré beaucoup de cas de viol, vu le contexte des guerres, les mamans villageoises, là, ne s'habillent jamais mal. En Boujima, où il parle, il y a beaucoup de cas de viol. Est-ce qu'il peut nous dire, effectivement, qu'il y a ces cas de viol, là, dus à l'habillement des femmes? Donc, ce n'est pas une justification. Et moi, je dis toujours que si les hommes ou les femmes vont continuer à croire que l'habillement, c'est une cause de viol, en tout cas, on est encore très loin de bannir ces fléaux de notre société. Parce qu'on va justifier les violeurs, on va justifier l'acte posé par les violeurs. Mmh. Alors que, moi, je voudrais savoir si un papa va justifier aujourd'hui qu'il peut violer sa fille ou peut violer la fille de son voisin juste parce qu'il l'a vu mal habillée, alors que nous avons la responsabilité, effectivement, d'orienter ces enfants-là, si jamais on trouve qu'ils ne s'habillent pas correctement, de lui dire tu dois bien t'habiller. Au lieu de dire que non, j'ai profité du fait qu'il n'était pas bien habillé parce que le bien habillé, là, reste aussi relatif. Mmh. Et sauter si l'enfant est violent. Donc, ça n'a jamais été un argument. Et donc, on ne peut pas se mettre à justifier.
Et même un enfant de 8 ans que vous violez
oui.
depuis l'âge
ou
de 8
3 ans,
ou de 3 ans,
vous allez dire qu'elle était mal habillée. Donc ce n'est pas un argument et c'est désolant pour nous de nous trouver en train de nous justifier chaque fois pour cette question d'habillement parce qu'on se considère comme des animaux qui ne savent pas retenir leur pulsion et sauter sur n'importe quoi. Et encore une fois, quand c'est un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, qu'est-ce que l'habillement vient faire là-dedans? Ou même un enfant de 8 ans. Ce n'est pas une justification, je suis désolée.
Bien, Jonas de Kananga a déploré la lenteur de la justice. Il a parlé également de l'encadrement psychologique des victimes et il dit... Est-ce qu'il est aussi possible, au lieu d'aller de porter l'affaire devant la justice, de négocier à l'amiable?
Impossible. Et d'ailleurs, c'est moi, tout ce qu'il a dit avant, c'était bien. C'est quand il a chuté, je me suis dit, bon, on est où là? On ne peut jamais et en aucun cas encourager. C'est d'abord une infraction pénale, de toutes les façons, parce qu'il doit le savoir. Et personne n'a le droit d'aller plaider ou bien chercher l'arrangement à l'amiable à la place de la victime elle-même. Il n'y a rien qui peut réparer, il n'y a personne qui peut savoir jusqu'où ça fait mal à la victime pour dire voilà, autant d'argent pourrait combler les crimes ou bien pourrait combler le mal. Mmh. Une infraction doit être sévèrement punie par la loi parce que déjà c'est prévu par la loi et donc il ne faut jamais encourager parce que l'arrangement à l'amiable, si c'est de l'argent, ça veut dire tout le monde va dire si moi j'ai de l'argent, je peux violer et puis après on va arranger à l'amiable et ça ne va pas contribuer à résoudre le problème et à combattre l'impunité du viol.
Mmh. Et pour le cas de la fille qui a vu a été violée depuis 8 ans. Vous avez dit que le problème est maintenant, ils sont en procès maintenant.
Non, la fille qui a été violée depuis ses 8 ans, les militaires avaient été arrêtés à un moment, mais il a été relaxé parce que la famille n'a pas de moyens pour faire le suivi au niveau judiciaire. Donc, il n'y a jamais eu de procès. Et le monsieur a été relaxé. Et donc, dans le cadre du consortium, nous sommes en train d'essayer de réunir encore des informations pour voir si la justice, les informations et les ressources, pour voir si la justice peut encore mettre la main sur le violeur.
Ouais. Bien, et par rapport à l'encadrement psychologique dont il a fait allusion,
oui,
comment vous faites pour organiser
ça? C'est très capital. D'ailleurs, on est en train de se poser la question maintenant, parce qu'on demandait à ce que la fille de 13 ans ne comparaisse pas hier, parce que c'était hier la première audience, mais comme l'audience a été remise à la semaine prochaine, les tribunaux, ils ont demandé à ce que la fille de 13 ans puisse comparaître. Et donc, pour ça, il faut un encadrement, il faut une préparation psychologique. Donc, vous voyez que c'est très important, cette dimension psychologique, et il faut la maintenir. Et non seulement pour les victimes, mais aussi pour les victimes collatérales, qui peuvent être les pères, la mère, les sœurs et même le voisin.
Voilà, et Malunga revient, il a parlé de la collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Comment vous faites pour collaborer afin d'assurer meilleur encadrement, encadrer toutes ces personnes violées?
Bon, on est allé, moi personnellement, j'étais allé au ministère, la ministre est saisie. Et là, promis de nous relancer, nous recevoir pour en parler en profondeur. Mais après, il nous a aussi référé à un service du ministère qui s'occupe des violences sexuelles. Mais le comble de tout, c'est que les services n'est pas à mesure de nous offrir un accompagnement ou bien des ressources nécessaires, parce que les services sont pleins de ne pas avoir aussi des moyens. Donc, jusque-là, c'est nous-mêmes qui essayons de nous battre. On a aussi écrit des correspondances à certaines organisations internationales, dont ceux qui travaillent dans la thématique, mais comme vous le savez, bon, je pense que le processus est encore en cours, mais entre-temps, le mal ne va pas se faire attendre, donc nous, on continue à faire ce qu'on peut faire.
Joseph Dekindou veut connaître la différence entre le harcèlement et la violence sexuelle.
Oui.
Le harcèlement et violence sexuelle.
Voilà. L'harcèlement est une forme de violence sexuelle d'abord, mais l'harcèlement, ça peut être un comportement, une attitude, des mots, des gestes dans les chefs d'une personne qui cherche à obtenir des faveurs sexuelles de l'autre personne, et il peut utiliser soit sa position, ça veut dire le fait qu'il soit un chef hiérarchique, le fait qu'il ait une position d'autorité sur la personne. C'est comme ça qu'on voit souvent le professeur avec les élèves, l'employeur avec les employés, c'est ce qu'on appelle harcèlement. Mais on ne dit pas que c'est dans un sens, c'est dans tous les sens. Ça peut être, le chef peut être une femme et qui harcèle son subalterne qui peut être un homme, et vice versa. Donc ici, on n'insiste pas par le fait que la victime soit seulement une femme.
Et puis, Joseph se pose la question de savoir, mais à l'époque, les filles se mariaient à 12 ans. Est-ce qu'à l'époque, on parlait des viols ou des violences? Et puis, il dit, on accuse toujours les hommes. Il a même raconté l'histoire d'une maman qui est violée aussi des petits garçons.
Qu'est-ce oui, mais il est complice. Il est complice parce qu'il n'a pas dénoncé. Lui, il a vu ça, il n'a pas dénoncé. Comment est-ce que lui, il peut être témoin de ce qu'il pense être aussi une violence sexuelle et il ne dénonce pas? C'est ça la complicité dont on peut parler. Il l'a vu. Nous, on n'a pas dit qu'on parle de violence sexuelle quand c'est seulement des hommes ou quand c'est seulement des... On veut effectivement dénoncer parce que les conséquences sont les mêmes, que ce soit pour les garçons, pour les filles. Alors, s'il est témoin d'une violence sexuelle et qu'il ne dénonce pas, ça veut dire que c'est lui qui entretient ces violences sexuelles. Donc, nous, on n'est pas là pour parler juste parce qu'il s'agit des femmes. On parle parce qu'on sait que le viol est abominable, il est mauvais, il a des conséquences énormes. Et je ne pense pas qu'il est un enfant pour que je commence à lui expliquer pourquoi est-ce que quand c'est un enfant, une fille de 12 ans, voilà les conséquences que cela comporte, que ce soit sur les plans de sa santé, que ce soit sur les plans de son épanouissement. Encore une fois, que ces mariages-là, c'était entre des adultes et les enfants. Est-ce que lui, il peut accepter qu'un enfant de 12 ans, un garçon de 12 ans, se marie à une femme de 50 ans ou bien à une femme de 30 ans? Lui, il trouve que cette union-là est normale. Et donc,
c'est des mariages précoces. Hein.
Oui, ce sont des mariages précoces. Donc, ce n'est pas seulement parce que la société tolérait à l'époque qu'un adulte de 40 ans se marie à un enfant, fille de 12 ans, que c'est normal. qui s'imagine d'abord que si c'était un garçon de 12 ans à qui on mariait à une femme de 40 ans, comment lui il sentirait ça? Quel est le niveau de responsabilité que ces garçons pouvaient avoir de gérer ou bien de gérer le foyer ou le ménage et consorts? Donc on doit sortir en fait de ces conceptions rétrogrades de la culture ancienne, parce qu'on est bien sûr convaincu que ça ne pouvait pas faire avancer et c'était des crimes humanitaires.
Bien. Comment assurer un meilleur encadrement des victimes de violences sexuelles? Michel Audin, vous êtes en Bandaka Simon, Mbujimaï et Kachai de Kanyoka. Michel, bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment, particulièrement sur les Bandaka.
Quelle est votre préoccupation, Michel Audin?
Voilà, j'ai une petite préoccupation que je vais soumettre à l'invité. On a vu un cas comme ça, on n'a pas voulu s'intégrer. Il paraît qu'un jeune garçon de 15 ans a violé son ami garçon de 17 ans. Est-ce que cela peut être possible? C'est ça la première question. La deuxième question, dans la plupart des cas, la famille de la victime, la fille, cherche toujours un arrangement à l'amiable avec la famille de bourreau. Dans de telles situations, comment on peut faire pour dénoncer ces problèmes si vous ne faites pas vous partie de la famille de la victime? Merci.
Bien. Simon Nkalukanda, vous êtes en Mbujimaï. Bonjour.
Ouais, bonjour, Jody. C'est pas Mbujimaï, c'est à Kananga.
Voilà, Tati, ce n'est pas Mbujimaï, il est plutôt à Kananga. Oui, on vous écoute, Simon.
Ouais, moi j'avais juste une question à poser à Madame l'invité. Les violences des jeunes filles existent aujourd'hui, mais quel conseil la dame peut donner aux familles qui utilisent aujourd'hui leurs jeunes filles comme une marchandise? Parce que je connais dans mon village natal, il y a une famille qui s'est enrichie comme ça, depuis leur toute première fille jusqu'à la dernière. Elles exposent leur fille quand il y a un visiteur ou quelqu'un de nouveau dans un village, ils envoient leur fille là, et puis après quand ils couchent avec elle, on les attrape comme une violence. Et cela, c'est déjà une habitude. Même ici à Kananga, mon petit frère propre en a été victime dans une famille aussi comme ça, qui utilise leurs jeunes filles comme du commerce pour justement s'enrichir. Alors, quel conseil la dame peut aussi donner aux familles qui font des choses comme ça?
Voilà. Bien. Merci Simon. Kachai de Kanyoka, bonjour. Bonjour Kachai. Il n'est plus là. Alors, je m'en vais lire.
Oui. Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité.
Bonjour, Kachai. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'encadrement des victimes des violences sexuelles?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Avant de poser des questions, j'ai un cas de témoignage.
Oui.
Mais le cas de témoignage en justice militaire. Monsieur Jody, la justice militaire est devenue très hostile à l'endroit des militaires immoraux qui abusent. Alors, il y a trois officiers militaires, élèves officiers militaires, qui ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison ici à Kananga pour avoir violé une fille de 12 ans au camp militaire et au camp Bobozo. Alors, c'est vrai que les trois ont été arrêtés, mais un s'est évadé et jusqu'alors il n'a pas été arrêté et puis les deux autres ont été condamnés. Ça, c'est un cas à saluer par rapport à ce qui s'est fait ici concernant les viols des mineurs. Il y a aussi le cas de condamnation d'un colonel par la cour militaire qui avait aussi violé une fille de 17 ans. Alors, maintenant, je voulais au moins poser quelques petites questions à madame l'invitée. Lorsqu'il y a doute sur l'âge de la mineure, plus généralement, ce sont des filles mineures qui sont victimes de viols parce que les garçons, eux, on parle peu pour leur cas. Alors, lorsqu'il y a doute sur l'âge, alors, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Parce que en justice, nous voyons un peu des choses qui se passent. Alors, moi, je voulais un peu demander, quand il y a flou sur l'âge de la mineure, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Deuxièmement, monsieur Jody, lorsque le Bureau international catholique, BIC, œuvrait ici à Kananga, il y avait aussi une juge, je jette le nom pour garder sa dignité, qui était affectée au tribunal pour enfants. Monsieur Jody, on arrêtait au jour les jours. Et les gens, surtout les jeunes garçons, avaient encore peur de draguer les jeunes filles. Mais faut malheureusement, cette juge-là a été affectée ailleurs, elle n'est plus ici à Kananga. Et le Bureau international catholique n'opère pas comme il opérait auparavant. C'est ainsi que nous connaissons des dévies graves qui se commettent sur nos jeunes filles. À Nganza, à la suite des événements malheureux de Kamouina, le bâtonnier des avocats ici, j'ai cité M. Kambala, Dominique, si c'est ça son nom, alors il a créé une un mouvement citoyen là. Je suis jeune, mineur, je revendique la justice en Gaza. Monsieur, je dis, mais jusqu'alors, il y a des jeunes filles qui ont été violées pendant ces hostilités-là, jusqu'alors qui n'ont jamais été rétablies dans leurs droits. Mais bon, je ne sais pas. Tshisekedi a dit qu'il va réformer la justice. Jusqu'alors, les juges ne sont plus même nombreux ici à Kananga. Nous retrouvons un juge, deux juges, alors qu'il y a beaucoup de dossiers
d'accord.
de violences sexuelles.
Merci.
Comment ça va se passer?
Bien, merci.
Et aussi pour finir,
oui.
Et madame donne des précisions. Les violences sexuelles, c'est une infraction ou soit c'est l'ensemble de certains actes incriminés par la loi. Parce qu'il y a six formes de violences sexuelles.
D'accord,
parmi
merci.
Lesquelles, il y a aussi les viols. Maintenant,
oui,
les gens parlent seulement des violences sexuelles.
Oui.
Est-ce que c'est une infraction ou soit c'est l'ensemble des actes là déjà incriminés par la loi qui sont punissables?
Merci bien. Serge Kingi, vous êtes à Kindu. Jean-Baptiste à Lubumbashi. Serge, bonjour. Bien, on passe à Jean-Baptiste Mbayo de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité.
Oui, quelle est votre question?
Je voulais aussi réagir à cette émission. Oui, je voulais aussi poser la question à l'invité. Pourquoi les femmes d'aujourd'hui portent des pantalons, ils sont en train de voler, de violer les garçons? C'est pas... C'est violence.
Les femmes violent les garçons en portant les pantalons?
Oui, ils sont en train de porter de mauvais habits. Des fois, des garçons sont attirés à les suivre. Et puis, si vous l'assisez, c'est aussi une violence. Son papa vous rend justice.
D'accord, merci. Alors, une autre question. Mathieu, depuis la ville de Bukavu, la première question, comment l'État assure la prise en charge des victimes des violences sexuelles et quels sont les éléments fondamentaux qui causent le nombre élevé des violences sexuelles? On fait signe que Serge Kingi est en ligne. Bonjour, vous êtes à Kindu.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à madame Laouka. J'aimerais qu'elle puisse prendre note de mes questions que j'aurais à poser.
Rapidement, quelles sont ces questions?
J'aimerais vous demander ceci. Et ceux qui sont mariés légalement peuvent encore se violer? Puisqu'il y a nos voisins ici, ils viennent d'effectuer un mois de leur mariage. Un jour, on était sorti, la femme qui est mariée, elle est partie donner les rapports à la famille du garçon, en disant que votre enfant ne me fait pas dormir, dès que nous puissions faire avec lui chaque jour. Maintenant, sans dire que les garçons sont en train de les violer.
De la violer, oui.
Alors, c'est pas. Oui, de la violer. On ne sait pas si ces cas-là, ils invitent nous éclaircir plus. Autre chose, ici chez nous, à Kindu, il y a un groupe d'ethnie, il y a appelé le Batoka Kasongo. Il y a un groupe moi, il y a Kadira Mojaizi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils exigent dans leur groupe d'ethnie-là de marier deux ou quatre femmes chez eux, ça ne cause pas de problème. Et ils exigent aussi chaque femme d'avoir 6 ou 10 enfants comme ça, ce n'est pas un problème. Faire aussi un champ d'hectare, d'au moins un hectare, à chaque femme, ce n'est même pas un problème. Maintenant, ça peut être aussi une violence, on peut appeler ça comme violence faite à la femme ou quoi, par rapport à cette exploitation-là, dont le groupe Pétinira réalise au niveau de la vie d'équipe, mais aussi surtout de l'étendue de la province.
D'accord, merci Jean-Baptiste. Madame Pascaline.
Oui, la polygamie n'est pas une violence sexuelle, mais c'est une violence culturelle. Quand un homme doit prendre plusieurs femmes ou bien répudier sa femme légale pour d'autres femmes, c'est une violence culturelle, mais ce n'est pas une violence sexuelle. Mmh. Et le viol conjugal existe effectivement. Pour répondre à la question de notre invité, même quand on est marié, il y a ce qu'on appelle le viol conjugal. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on peut forcer l'acte sexuel, même dans le contexte du mariage. Que ce soit l'homme ou la femme, tout passe par le consentement. Donc, comme vous le savez, si toujours les mêmes viols qui se fait en dehors, qui peuvent se faire en dehors du mariage, peuvent être considérés dans le mariage si on n'a pas respecté les conditions. Ça veut dire c'est une violence.
Alors, il y a une question importante de Mathias depuis Bukavu. Comment l'État assure la prise en charge des victimes de violences sexuelles?
Bon, sincèrement, je ne sais pas s'il y a un programme. Nous savions bien qu'à un moment donné, il y a eu un bureau spécial là où il y avait Madame la présidente actuelle de l'Assemblée nationale qui s'occupait des violences sexuelles. Mais encore là, on ne savait pas très bien c'était quel aspect. On savait qu'à un moment, il y avait un numéro vert où les victimes pouvaient appeler, mais à un moment, ça s'était arrêté. On savait qu'il y avait des prises en charge qui s'organisaient par-ci, par-là. Mais pour dire vrai, moi-même, je ne sais pas vous dire qu'il y a un mécanisme national ou bien au niveau provincial où chaque ministère ou bien les divisions provinciales peuvent nous dire voilà ce que nous offrons. La plupart des cas, ce sont des partenaires techniques et financiers qui essaient d'amener quelque chose, mais encore une fois, leur action est très limitée et on le sait très bien. Moi-même, j'étais au ministère du Genre, comme je vous l'ai dit, et là, on a toujours évoqué la question des ressources.
Donc, jusque là, il n'y a pas une bonne prise en charge des victimes.
Il n'y a pas une bonne prise en charge. Il y a quelques programmes, mais ces programmes-là n'offrent pas assez d'encadrement ou assez de moyens pour permettre à ce que les victimes d'abord puissent dénoncer, puissent être identifiées, puissent être répertoriées et puissent être suivies.
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas un encadrement de ces victimes de violences sexuelles?
C'est ce que moi j'ai dit. J'ai parlé avec madame du service à Vifem et j'ai tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit, on ne peut pas, au niveau de l'État, on ne peut pas nous dire chaque fois que l'État n'a pas des ressources. C'est vraiment aberrant que ces langages viennent de l'État. Parce que si les partenaires sont là, s'ils interviennent dans les autres domaines comme le VIH-SIDA, il faut effectivement que ces partenaires puissent aider l'État à mettre en place un mécanisme sérieux de prise en charge. Parce que si même il faut dire un ordre des priorités, des violences sexuelles ne devaient pas être mises à l'écart. Aujourd'hui, c'est la planification familiale, il y a suffisamment de ressources là-dedans, mais pourquoi le ministère du Genre ne peut pas donner une politique claire pour ce qui concerne aussi des violences sexuelles? Parce que c'est vraiment alarmant. On ne peut pas vivre dans une société où les femmes sont violées continuellement et quotidiennement et qu'on comprenne ça et qu'on rajoute ça comme un fait quotidien, comme on peut manquer à manger ou on peut manquer son transport. C'est pas normal.
Donc il faut, à votre avis, il faudrait qu'il y ait des structures, des prises en charge dans toutes les provinces.
L'État doit avoir sa politique claire concernant la lutte contre les violences sexuelles et l'État doit donner le go, il doit avoir suffisamment, au moins de ressources ou bien mobiliser les partenaires à pouvoir orienter des ressources pour mettre en œuvre sa politique de lutte contre les violences sexuelles.
Et au niveau des organisations de la société civile, qu'est-ce qui doit être fait?
Les organisations de la société civile continuent avec la sensibilisation, ils alertent. Mais comme vous le savez, souvent, la plupart d'organisations dépendent aussi des fonds des organisations internationales. Mais donc, les organisations internationales travaillent en fonction de leurs priorités. Si aujourd'hui, les priorités, c'est l'environnement, c'est les changements climatiques, c'est la planification familiale, ça veut dire que les violences sexuelles peuvent attendre un peu. Donc, il faut des mécanismes communautaires surtout. L'État doit pouvoir réfléchir en termes de mettre en place des mécanismes communautaires que les organisations internationales, les partenaires d'appui financier doivent appuyer maintenant. On ne doit pas faire ça avec les ONG internationales parce qu'on sait très bien que c'est limité dans le temps et dans l'espace. Les projets, on les ouvre, après ça s'arrête. Mais quand ce sont des mécanismes communautaires où on peut mettre à l'œuvre les églises, on peut mettre à l'œuvre tout ce qui existe au niveau communautaire, au moins on sait que ça peut être assez permanent comme mécanisme. Mais si on reste toujours dans la logique des projets et on sait bien comment ça fonctionne, ça ne va pas résoudre le problème. Dès lors que notre société, jusqu'à aujourd'hui, on continue à constater que les violences sexuelles sont encore une monnaie courante.
Il n'y a jamais eu une rencontre pour définir une politique générale des prises en charge des victimes des violences sexuelles dans ce pays?
Je n'ai pas eu peur à en avoir. Je ne peux pas dire que je maîtrise tout, mais je sais qu'il y a une politique plutôt pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Et même s'il y avait cette politique-là, il faut la mettre en œuvre, il faut l'appliquer. Donc il suffit juste parce qu'il y a des partenaires qui peuvent appuyer le gouvernement pour définir cette politique-là, mais après, ça reste un document qui est sous les tiroirs. Et puis après, les violences sexuelles continuent, comme on est en train de le dire maintenant.
Surtout les mineurs qui continuent à être violés
en famille. C'est déplorable. Moi, je suis parent. Je ne sais pas si moi, je les ressens différemment que d'autres personnes. C'est pour cela que je me sens alarmée. Mais je pense que tout le monde devait l'être aussi.
Bien, merci beaucoup, Madame Pascaline Zamouda Mukanda. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Cadre de récupération et d'encadrement pour l'épanouissement des jeunes. Vous êtes aussi consultante en genre. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci,
et à la prochaine.
À la prochaine.